CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h, nous sommes toujours en février 2026, nous sommes toujours à Chaville et nous sommes autour de cette table avec trois chroniqueurs. Bonjour Monique.
Bonjour Jonathan, eh bien aujourd'hui ça va être la dernière fiche spéciale municipale et je vais vous parler de GPSO.
Oula, bel acronyme. Effectivement la quatrième et dernière avant les élections municipales. Jean Barbard, de quoi parles-tu aujourd'hui ?
Bonjour à tous. Après une COP30 qui baisse les armes face au lobby fossile et des États-Unis qui claquent la porte de l'accord de Paris, je vous amène quelques nouvelles encourageantes sur la réutilisation des GES.
On a besoin d'être encouragé. Merci. Et Clément, du coup, on va aussi parler de nourriture, là.
Oui. Alors, je vais rendre un hommage vibrant à mon mixeur plongeant, puisque je vais faire une chronique sur les soupes.
Ah, magnifique. Radio VCE, c'est la 128 déjà. C'est parti.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
GPSO, bien sûr, Grand Paris Seine-Ouest. Depuis le 1er janvier 2016, la communauté d'agglomération est devenue un territoire, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. La métropole regroupe 130 communes, soit 7 millions d'habitants. Elle est composée de 12 territoires. Et pour créer un territoire, il faut au moins regrouper 300 000 habitants.
Donc on est plus de 300 000 habitants, mais c'est quoi exactement le périmètre du coup de Grand Paris Seine-Ouest ?
Alors c'est 8 communes, Chaville 20 465 habitants, Ville d'Avray 11 093 habitants, Marne-la-Coquette 1815 habitants, Sèvres 23 071 habitants, Meudon 47 358, Boulogne-Billancourt 121 391.
Ah oui, tout de suite.
Eh oui. Vanves 28 794 et ici les Moulineaux 68 375. Donc en tout, GPSO c'est 322 362 habitants, dont plus de la moitié sont à Boulogne et ici les Moulineaux. C'est un conseil du territoire qui gouverne GPSO. 73 élus territoriaux répartis proportionnellement selon la population de chaque ville. Chaville a 4 élus, actuellement tous de la majorité, issus des élections de 2020. Boulogne en a 29, ici en a 16, Meudon 10. GPSO s'est doté d'un bureau de territoire où siègent les 8 maires. Le président du conseil est le maire de Boulogne, Pierre-Christophe Baguet. Les 7 autres maires sont vice-présidents et ont chacun en charge une ou des compétences particulières. Jean-Jacques Guillet, par exemple, notre maire à Chaville, est délégué à l'équilibre social de l'habitat, à l'aménagement de l'espace, aux opérations d'aménagement et aux règlements de publicité.
Oui, alors mon petit doigt me dit que les conseillers municipaux vont changer dans pas longtemps. Est-ce voilà. que tu peux nous dire comment est-ce qu'ils sont désignés ?
Les conseillers territoriaux. Eh bien, depuis mars 2014, les conseillers territoriaux sont élus directement par les électeurs au moment des municipales. Les futurs conseillers communautaires sont explicitement identifiés sur les listes candidates aux municipales.
Oui, alors c'est un peu compliqué parce que du coup, là, les électeurs, ils sont mobilisés pour désigner les membres du conseil municipal. On a vu ça la semaine dernière et les semaines précédentes. Finalement, quelles sont les compétences du Grand Paris de Seine-Ouest par rapport aux municipalités ?
Oui, alors il y en a quand même quelques-unes qui sont importantes. GPSO exerce 10 compétences obligatoires dans le cadre du territoire, plus des compétences optionnelles. Alors la première, c'est l'aménagement de l'espace, puisque maintenant, le plan local d'urbanisme est intercommunal, on a un PLUI. GPSO s'occupe également du développement économique avec des zones artisanales, commerciales, industrielles et du tourisme. GPSO s'occupe de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, l'accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, le traitement de l'eau et son assainissement, la politique de la ville, alors ça, c'est pas beaucoup, mais par contre, c'est à GPSO qu'on doit avoir des caméras un petit peu partout, les opérations d'aménagement non reconnues d'intérêt métropolitain, parce que c'est une compétence partagée avec la métropole, la politique locale du logement et de l'habitat, bon, c'est pas sa compétence la plus importante, mais ça pourrait peut-être le devenir un peu plus, protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, les mobilités, les stationnements, le transport scolaire, les bornes électriques, certains transports publics. Il s'occupe aussi de l'action sociale un petit peu, avec la création de l'ABS, hein, l'analyse des besoins sociaux. Nous, on a beaucoup râlé quand c'est GPSO qu'il a fait, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'était capable de faire le CCAS pour une vision locale. Donc on a demandé, on prend ce GPSO, ça permet de comparer d'une ville à l'autre, mais on a demandé à avoir un ABS local. Les espaces verts, la voirie et l'éclairage public, la culture, puisque c'est GPSO qui gère les 5 conservatoires, hein, et enseignement musical et artistique, un plan climat, air, énergie territoriale, le sport avec la gestion du complexe sportif Marcel Beck et un soutien financier aux clubs de haut niveau concernés par les 8 villes. Enfin, donc, on n'oublie pas, certaines de ces compétences sont exercées seules par GPSO, d'autres partagées avec la métropole du Grand Paris.
Et oui, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, c'est des compétences qui au départ étaient municipales et ont été déléguées à l'échelon du dessus.
C'est ça.
Oui, donc on comprend ce que tu disais sur les besoins sociaux. Et finalement, quel est le budget de GPSO ?
Alors en 2025, le budget en fonctionnement était de 278 millions d'euros et en investissement de 112 millions d'euros. Pour les recettes, une grande majorité des ressources financières de GPSO repose sur la fiscalité. Alors, il y a d'abord le fonds de compensation des charges territoriales qui est versé par les 8 communes. Ça représente 45% des recettes. La cotisation foncière des entreprises, 25%. Le taux d'enlèvement des ordures ménagères, le TEOM qu'on paye avec nos impôts fonciers, 16%. Ces trois postes, c'est 86% des recettes de GPSO, auxquelles il faut ajouter les droits de stationnement, les inscriptions au conservatoire, les redevances d'occupation du domaine public, exemple le complexe sportif de Marcel Beck, et quelques subventions qui viennent soit de l'État, soit de la région IDF, soit du département 92. Pour les dépenses de fonctionnement assurent bien sûr la continuité du service public. Plus de la moitié des dépenses sont affectées à trois postes. La collecte des déchets, c'est 27%. La propreté urbaine, c'est 18%. L'enseignement artistique, 14%. À ces trois postes, il faut ajouter les salaires des 1023 agents et agentes en 2024 pour 21%. Alors, pour les agents et les agentes, c'est toutes compétences confondues, quel que soit le secteur où ils travaillent. Ces quatre postes, donc, représentent 80% des dépenses. Les 20% d'autres dépenses se répartissent entre les différentes compétences de GPSO. Parmi elles, pour les espaces verts, 8%, pour les transports, 7%, stationnement parking, 7%, éclairage public, 4%, logement politique de la ville, 3%, subvention sportive, 2%, et administration générale, communication et conseil du territoire, 6%. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour les agents 1023, là, 21% de dépenses, toutes compétences confondues, parce que par contre, les charges liées au salaire, hein, comme diraient certains, sont réintégrées. Quand on parle, par exemple, des espaces verts qui coûtent 8%, on a réintégré, bien sûr, les salaires des personnels. L'excédent de recettes de fonctionnement sert en partie à financer une partie des travaux d'investissement. 29 millions d'euros en 2025 ont donc été transférés du budget de fonctionnement au budget d'investissement. Les dépenses d'investissement se répartissent principalement comme suit. 44% pour la voirie, 16% pour la culture et le sport, 10% pour l'éclairage et 8% pour les espaces verts. Par ailleurs, GPSO dispose d'un emprunt d'équilibre de 52 millions d'euros.
Merci Monique pour ce tour d'horizon très complet du fonctionnement de l'établissement territoire GPSO. C'était la dernière chronique consacrée à une explication sur les élections municipales. On peut vous annoncer à ce micro qu'on va essayer, alors on va voir, on va prendre contact avec les différents candidats aux élections municipales de Chaville pour essayer d'organiser sous un format à discuter avec les intéressés, soit une forme de débat ou au moins une forme de présentation des différentes propositions électorales qui doivent être tranchées par les électeurs au mois de mars prochain. Donc on vous en tiendra évidemment au courant très rapidement. Merci Monique. Tout de suite, on passe à la chronique de Jean Barbard.
De tout et de rien avec Jean Barbare.
Madame, messieurs, à votre avis, qu'est-ce qui avance plus vite aujourd'hui, la diplomatie climatique ou la science? Pendant que les politiques négocient les virgules, les scientifiques, eux, bossent pour de vrai. Alors de quoi parle-t-on? De progrès concrets, mesurables, testés. Pas des promesses à 2050 écrites sur du papier recyclé. Non, des technologies qui fonctionnent maintenant. Alors le chiffre à un bal. À votre avis, combien de fois plus vite peut-on aujourd'hui fabriquer de la matière alimentaire à partir de CO2 par rapport à la photosynthèse naturelle?
Ah, par rapport à la photosynthèse,
hein. Oui. Notamment le maïs. Tiens, c'est une question pour Clément.
Ah, pour
Clément.
Alors, allez, 5 fois plus vite. C'est trop bas.
5 fois plus vite.
Moi, je ferais plutôt confiance à la nature, mais...
Oui, c'est ça, c'est contre-intuitif.
C'est contre-intuitif, oui. Mais en réalité, en simplifiant les réactions chimiques, en passant de 60, je crois, réactions, la scientifique arrive à passer à 11. 11 modifications chimiques. Donc la réponse, c'est jusqu'à 8 fois plus vite.
D'accord.
Oui, on sait désormais transformer du CO2 en amidon ou en protéines, en laboratoire, sans champ, sans tracteur, sans pesticides. Le carbone devient une matière première, plus seulement un problème. Alors, qui va manger du bon CO2 de four à béton? Ça, c'est une fausse question, on le sait déjà, les pauvres ou les gosses, mais ça, c'est un autre débat.
Oui.
Deuxième avancée majeure, le méthane qui réchauffe le climat 80 fois plus que le CO2 à court terme. Des chercheurs savent maintenant le capturer pour en faire du plastique biodégradable ou pour enrichir les sols. Résultat, moins d'effets de serre et moins de pollution plastique. Troisième front, l'industrie lourde. Pour info, la production de ciment est responsable d'environ 7% des émissions mondiales. En cause, la chaleur des fours à béton. Eh bien aujourd'hui, on sait piéger le CO2 directement dans le béton recyclé. Le carbone devient de la pierre, littéralement. Pas une compensation, pas un crédit carbone fumeux, du stockage définitif. Et puis enfin, il y a l'énergie hydrogène, produite à partir de déchets biomasse. Carburant de synthèse pour l'aviation, e-fuel pour les cargos. C'est moins efficace que l'électrique, oui. Mais pour les avions long courrier ou les porte-conteneurs, les batteries sont impossibles à gérer. Donc il n'y a que le kérosène ou l'e-kérosène. Alors soyons clairs, la science ne remplace pas la volonté politique, ni l'adoption sociétale. Mais elle prouve une chose essentielle, les solutions existent. La vraie question, la voilà. Est-ce qu'on va utiliser ces technologies pour réduire réellement nos émissions ou comme un alibi high-tech pour continuer comme avant? Parce qu'au fond, le problème, c'est pas tellement les scientifiques. Il est plus le courage politique à faire face à la pression de la finance et au lobby.
Merci Jean-Barbare, c'est très juste, effectivement, cette réflexe aussi du technosolutionnisme en disant, voilà, il n'y a pas besoin de changer profondément nos modes de vie. C'est quelque chose qui devrait nous interpeller tous.
Exactement, Elon Musk, notamment, s'était porté partie prenante pour financer les panneaux solaires en Italie, en Sicile.
Donc, Et oui.
Alors moi, j'ai une question un petit peu terre-à-terre. Comment on fait pour capturer le méthane? Et là, je pense particulièrement aux proutes des troupeaux de vaches et compagnie.
Ah, moi, je pense qu'il faut les enfermer.
Les proutes?
Les vaches.
Alors, je ne sais pas, je sais pas en détail comment, par quel processus, enfin, je ne me souviens pas. En tout cas, j'ai travaillé sur un rapport qui est disponible à la demande. Donc, envoyez un mail à Radio VCE et on vous transmettra ce rapport. Et c'est un petit rapport de 12 pages, très facile à lire. Mais en tout cas, pour la solidification des sols, c'est une des spécialités françaises, ça s'appelle le char. Et donc, c'est mélangé au sol pour les rendre plus fertiles.
D'accord. Merci beaucoup, Jean Barbare. On se retrouve la semaine prochaine. Dans l'immédiat, on va passer à table.
À table avec Clément Chassin.
Clément.
Oui, donc j'ai fait il y a quelques semaines une chronique sur les épices où j'ai dit que ça permettait de varier les plats, tout ça, notamment parce que c'est vrai que je mange de la soupe, allez, mettons six mois dans l'année. C'est vrai que moi je mange beaucoup de soupe, hein. Je pense que de l'automne au printemps, je suis en plein dans la saison.
C'est pratique.
Voilà.
C'est bon.
Et voilà, du coup, en antenne, après on avait discuté de soupe, voilà, et je me suis dit que ça avait peut-être le coup de revenir sur le sujet. Pourquoi? Alors, pourquoi la soupe? Parce que la soupe, c'est...
Ça fait grandir.
Oui, alors je suis la preuve que non. Hein.
Ah.
Mais c'est des produits frais, locaux, de saison. Effectivement, il y a des centaines de recettes de soupe avec des variations à l'infini. Et c'est génial parce qu'on peut utiliser effectivement tous les légumes de saison qu'on a, voilà. Donc, c'est plein de possibilités. Et on peut même éventuellement y incorporer les légumes qu'on n'aime pas trop. Voilà, quand on a des paniers de légumes où on ne choisit pas toujours,
j'avoue,
c'est assez pratique. La soupe, c'est facile à faire. C'est idiot à dire, mais voilà. Bon, en plus, moi, j'utilise des légumes bio, donc je n'ai même pas besoin d'éplucher. Je mets dans la casserole un peu d'eau, des épices, et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Ça cuit tout seul. Et à limite, même si je vais faire autre chose, que j'oublie le truc, si ça cuit un peu trop dans l'eau, c'est pas très gênant. Voilà. Donc, c'est ultra facile à faire. La soupe, non, c'est pas toujours la même chose. Effectivement, ça effraie un peu les gens quand je dis « Ouais, moi, j'en mange six mois de l'année ». Eh bien, en fait, non, on a des goûts très différents selon, effectivement, les légumes qu'on y met, selon les épices qu'on y met. On peut aussi jouer sur les textures, les soupes, les veloutés avec une petite pointe de crème là pour l'onctuosité, les potages avec des morceaux pas mixés. On peut rajouter des croûtons, les croûtons maison frottés à l'ail plutôt que de jeter le pain sec qui traîne. Eh bien, voilà, on peut faire une soupe gratinée là avec un peu de fromage par-dessus. On peut y mettre des lentilles, on peut y mettre des nouilles alphabet aussi. Oui. Oui. Puis voilà, puis on dit c'est toujours la même texture. C'est vrai que bon, la pomme de terre, navet, tout ça. Mais je parlais des lentilles et pourquoi pas faire des soupes de pois cassés aussi. Voilà, avec une base de pois cassés, pas forcément toujours une base de patates ou de trucs comme ça. Voilà. Enfin. Alors des fois, on me dit « Oui, mais une soupe, c'est pas un repas. Moi, après, je vais avoir faim, je vais avoir des carences, c'est de la flotte. » Voilà. Alors, je vais prendre un basique de saison, hein, la pomme de terre poireau. Alors déjà, on a quand même de la pomme de terre. Mettons qu'on y ajoute des lentilles. Alors, soit entières, effectivement, c'est bien, ça fait des morceaux. Ou alors même hop, carrément mixées avec. Voilà. Qu'on y ajoute des croûtons, qu'on gratine au fromage, pour les plus courageux. Mais pourquoi pas y rajouter des noisettes? Des noisettes mixées. Alors, si vous faites une soupe avec de la courge, les noisettes mixées, ça va super bien avec. Donc voilà, vous faites un bon bol. Alors, comme je disais aussi, on peut mettre une cuillère de crème. Voilà. Ah oui. Là, je peux vous dire, après un bon bol de cette soupe, vous dormez bien. Et encore, j'ai pas parlé des soupes asiatiques, avec des nouilles, avec du vermicelle. Voilà. Donc la soupe, ça a plein de qualités. C'est facile, c'est pas cher. Ça permet de manger des légumes frais et de saison. Voilà, j'avais juste envie de mettre en avant la soupe.
Je voudrais juste informer nos auditeurs qu'il y a tellement d'amour dans les yeux de Clément au moment de sa chronique qu'il faut quand même le noter.
Oui, oui, oui. En fait, voilà, ça fait grandir l'âme au moins, la soupe. Merci beaucoup, Clément. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine avec toute l'équipe. C'était Jonathan Bord, c'était Radio VCE, la 127e. À la semaine prochaine!